Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, toujours autant de plaisir à vous retrouver chaque lundi soir 19h-20h30 pour notre émission Omnisport. Alors la semaine dernière on avait fait une grosse rétro de l'année 2024 avec l'historien du sport Pierre Lagrue. Aujourd'hui on va continuer dans l'aventure, dans la photo sportive avec les différents intervenants que l'on va pouvoir écouter au cours de cette émission. Déjà notre invité c'est Jean-Denis Walter, ex-directeur photo et rédacteur en chef du quotidien L'Équipe.
De L'Équipe magazine.
Voilà, de L'Équipe magazine, oui. Enfin, du groupe L'Équipe, dirons-nous. Voilà, de L'Équipe magazine. Jean-Denis, bonsoir. Merci pour votre d'avoir répondu à notre invitation. Hein. La photo sportive, bah, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez maintenant une galerie d'art, il faut le dire, depuis 2012. Hein.
2013. J'ai quitté L'Équipe en 2012, créé la galerie en 2013.
D'accord, très bien. On aura l'occasion d'en reparler en deuxième partie de cette émission. Je vais saluer aussi celle qui va m'accompagner ce soir, comme chaque lundi, c'est Vanessa. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous.
Ouais. Bonsoir, on a laissé de côté notre ami Alexandre qui a pris un petit week-end, un petit lundi de repos. Hein. On lui a accordé un petit lundi pour se reposer. Il a beaucoup travaillé. Alexandre, donc c'est toi qui feras le journal des sports
cette semaine. Exactement, Philippe.
Voilà. Très bien. Alors, je l'ai dit, cette émission, donc photographie et puis aventure sportive. Hein. Bon, c'est vrai que souvent, l'aventure sportive emmène aussi des belles photos. On a eu la chance de rencontrer Axel Carion, qui est un aventurier du sport cycliste, organisateur de la Big In Man, influenceur, écrivain, conférencier. Et donc, Axel Carion, il a fait la tournée des médias il y a à peu près un mois. Il est venu dans le coin et il nous a fait l'honneur de s'arrêter pour Mon Paris FM. On va l'écouter, vous allez voir, une vie très riche, très remplie. Axel Carion, donc au micro de Mon Paris FM. Allez, avec Axel Carion. Axel, merci en tout cas de venir donc ici à Paris nous rencontrer. Hein. Vous êtes, un influenceur du vélo en quelque sorte et un cycliste devant l'éternel. Donc on va un petit peu s'intéresser à votre vie. Pourquoi d'abord le vélo? C'est arrivé comment? Est-ce que c'est parce qu'on aime les gens, on aime le vélo ou on aime aussi les voyages ou un peu tout?
Alors c'est un peu tout à la fois, mais c'est avant tout une rencontre. Oui. Moi, le vélo, il m'a été donné en cadeau par un de mes meilleurs amis qui m'a proposé un jour de faire un voyage. J'avais jamais fait de vélo de ma vie. Et il m'a proposé d'aller traverser l'Europe de l'Est. Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Moldavie, 1200 bornes en 10 jours. À l'époque, je lui ai simplement dit oui, en lui faisant confiance. Et on est parti à 3, pour le coup, dans cette expédition. Et ça a été un marqueur et un tournant dans ma vie, parce que c'est là où j'ai découvert la bicyclette, par l'intermédiaire du voyage à vélo. C'est là que j'ai dormi chez l'habitant pour la première fois, chez une famille roumaine et chez un Ukrainien, Michael. Et ça a changé ma vie de sportif à l'époque, parce que je pratiquais pas mal de sport. Et voilà, je suis rentré à la fois par la rencontre, par le vélo, et ça m'a donné le voyage.
Et ça, vous aviez quel âge?
À cette époque-là, c'était en 2011, donc c'était il y a plus de 13 ans, donc j'avais à peine 26 ans.
D'accord, ok. Vous êtes d'une famille donc de Chartres, c'est ça? Le sport, les voyages, ça a toujours été dans votre culture?
Alors le sport, oui, moi je suis issu d'une famille nombreuse, j'ai 3 frères et 3 sœurs et j'ai pratiqué pour le coup toutes les activités sportives favorites des frères et sœurs. J'ai eu cette chance là d'ailleurs que m'ont donné mes frères et sœurs, c'est de pouvoir aller un peu faire un toucher à tout d'un point de vue sportif, de la gymnastique au judo, de la danse au roller, de l'escalade à la musculation et au triathlon. Et donc j'ai eu cet ADN là qui m'a été transmise par mes frères et sœurs. Et le voyage, je pense que c'est plus une observation quand j'étais enfant de mon père qui a un peu voyagé en Afrique et de ma mère également qui est née à l'époque au Vietnam et qui était fille de militaire et qui a beaucoup voyagé pour suivre la famille en fonction des engagements militaires qu'avait le grand-père.
Et quand vous étiez adolescent, vous auriez imaginé la vie qu'est la vôtre aujourd'hui?
Alors à Chartres, j'habitais même à Voves, j'ai eu J'ai eu une enfance un peu particulière parce que j'habitais pas très loin de la maison d'une personne avec qui je travaille aujourd'hui qui s'appelle Didier et qui avait un énorme terrain avec un bois à Voves. Et j'ai passé une partie de mon enfance à jouer en fait avec ces gosses qui sont devenus mes amis, Antoine et Jonathan pour ne pas les citer. Et l'Eure-et-Loire, ça a été mon terrain de jeu en fait parce que à la fois avec le terrain de Didier et en roller partir toute une journée avec des amis. J'ai toujours fait des choses un petit peu particulières dans la pratique sportive et puis on était libre. C'est-à-dire qu'à l'époque, les parents ne se préoccupaient pas de savoir où étaient les gosses. On allait faire du roller tout autour de Voves pendant 8-10 heures et on rentrait le soir. L'important, c'était de rentrer avant l'heure du souper pour ne pas se faire « enguirlander », entre guillemets. Donc je dirais que c'est un peu l'Eure-et-Loire qui m'a donné ça par cet intermédiaire puisque j'ai souvenir de grandes échappées en roller. Et qui durait toute la journée jusqu'à plus soif et une fois qu'on était épuisé, plus une activité dans les bois de chez Didier qui m'a donné toujours envie de jouer en fait à plusieurs.
Donc déjà il y avait des petits signes quand même.
Bah, je les donne maintenant avec le recul, mais à l'époque j'avais pas conscience que ça allait et que ça pourrait surtout donner la dimension de ce que je fais aujourd'hui. Clairement pas, mais je pense que ça a été voilà, c'est des petites pierres qu'on pousse. Et tel un petit poussé, on ne sait pas forcément où est-ce que ça va nous mener. C'est-à-dire qu'on voit d'où ça vient, on regarde un petit peu, et puis c'est en analysant toutes ces pierres qu'on se dit bah tiens, peut-être que ça donne un chemin, et c'est mien en tout cas.
Alors, premier voyage, ça se passe comment ?
Eh bien, très difficile, très douloureux, beaucoup d'apprentissage, c'est beaucoup de surprises surtout. Parce que le vélo, bah, ça fait mal aux fesses. Ouais. Quand on fait 1200 km alors qu'on n'a jamais fait un seul kilomètre, à part aller chercher la baguette de pain à côté de chez soi. C'est peut-être beaucoup. Quand on transporte sa chambre à coucher, son dressing, sa cuisine sur le vélo et qui fait plus de 50 kilos au total, ben, c'est compliqué de faire 120 km par jour sans s'arrêter. Donc ça a été beaucoup d'apprentissage, mais ça a été surtout une... moi je prends ça presque comme une fulgurance de la vie, c'est-à-dire que ça, dès le premier jour, malgré la difficulté, malgré la douleur qui est liée vraiment à la pratique du vélo, je voyais tout de suite toute la beauté de l'action, de voyager à vélo et de se mettre en mouvement grâce à cette machine que je vois plus comme un moyen de se déplacer plus que comme une pratique parce qu'on a souvent tendance à assimiler à mon avis à tort, cyclisme, Tour de France voilà, avec des clichés alors que la bicyclette au départ et j'ai eu la chance de découvrir quelques livres là-dessus c'est avant tout un moyen qui a permis de voyager autour du monde avant d'avoir le véhicule thermique avant d'avoir le moteur explosion et dans cet interstice de temps très court entre la fin des équidés, quand je dis la fin, c'est pas la mort des chevaux, mais en tout cas la fin de l'usage des chevaux pour se déplacer, au début de l'usage du moteur à explosion. Il y a eu cette respiration qui était le vélo, et je suis fasciné par les romans qui ont été écrits à l'époque des premiers voyageurs qui avaient des machines qui pesaient 50, 60, 70 kilos, et c'était presque du portage, mais qui permettaient du coup de décupler la capacité de l'humain à se déplacer et d'aller dans des endroits inaccessibles pour le coup avec un équidé, à cause de la contrainte de ravitaillement. Et pas encore possible, pas encore rendu possible par le pétrole et par le moteur à explosion.
Alors, votre voyage a duré combien de temps ? Ça s'est passé comment ? Ça, vous l'avez dit, hein, vous n'aviez jamais fait de vélo, ça n'a pas dû être facile. On peut dormir partout, même avec une tente, dans n'importe quel pays ?
Bah, c'est ce que j'ai découvert en tout cas à cette occasion. C'est-à-dire qu'on est parti à trois donc, sur cette expédition. Il y avait une personne plus âgée que mon meilleur ami Stéphane qui souhaitait plutôt s'isoler. Nous, avec Stéphane, on était jeunes et fougueux à cette époque-là et on cherchait vraiment à provoquer la rencontre. Et on a remarqué très vite, dès les premiers jours, qu'il était facile de dormir chez l'habitant avec le vélo, en fait. Donc, on a systématisé après ce réflexe d'aller taper aux portes et d'expliquer ce qu'on faisait parce qu'on traversait les Carpates, pour le coup, la chaîne de montagne. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était un outil extraordinaire pour rencontrer les gens. Parce qu'il y a cette dimension métabolique, cette dimension de déplacement, qui fait qu'à un moment donné, les personnes qui vous accueillent ne vous voient pas autrement que comme quelqu'un qui a peut-être un petit peu besoin d'aide, peut-être besoin d'un repas et peut-être de mettre les pieds dans une bassine d'eau chaude qui a été chauffée.
Il n'y a jamais eu de refus, jamais eu d'appréhension de la part de ces pays ?
Non, au contraire, moi c'est la première fois que j'ai dormi chez l'habitant, hein. C'est la première fois que j'ai dormi en Roumanie, c'est la première fois que j'ai dormi en Ukraine et j'ai eu que des très belles rencontres. Et en fait, c'est devenu un réflexe, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu ce premier voyage, après on l'a répété ensemble, puis après moi j'en ai organisé à plusieurs et après seul, on répète en fait cette expérience en se disant c'est pas possible, on est complètement sidéré de voir qu'il se passe toujours la même chose. Et Je pense que la démarche que j'ai vis-à-vis de la vie aussi doit y contribuer. Mais clairement, le vélo, pour ça, c'est un trait d'union qui permet de faciliter la rencontre avec les gens et de créer du lien. Et le soir, de dormir chez l'habitant, je pense que c'est une des meilleures manières. À pied, on est vu comme un vagabond.
Oui.
À vélo, on est vu comme un voyageur, comme quelqu'un qui, voilà, qui recherche quelque chose et qui a peut-être besoin d'aide.
Alors, ça, ça a été le premier voyage, ça a été le déclic, et vous l'avez dit, ça vous a donné l'envie de repartir, quoi. Donc après, ça, la suite, ça a été quoi ?
Ça a été de nouveau l'Europe de l'Est en 2012, l'Afrique, avec le, la découverte du Maroc, qui est vraiment un très très beau pays pour pouvoir quelque part découvrir les portes de l'Afrique. Et clairement, le Maroc a été un choc tellement important d'un point de vue culturel et surtout visuel, parce qu'il y a une lumière extraordinaire dans ce pays. En plus d'une géologie très particulière, c'est le Maroc qui a vraiment, je dirais, confirmé mon souhait à un moment donné d'aller voir les grands territoires qu'on lit ou qu'on découvre uniquement dans les atlas. Et ça a amené 2015, qui a été mon plus, ma plus grande traversée à ce jour et mon plus grand voyage à vélo de 240 jours à travers la cordillère des Andes, de la Colombie jusqu'à l'Argentine, donc Cartagène des Indes, hein, de la mer des Caraïbes, jusqu'au sud de l'Amérique latine pour rejoindre Ushuaia en, en Argentine. Et là, clairement, ça, ça a été un changement de vie. J'avais d'ailleurs à l'époque organisé une exposition photo à la suite de ce voyage, et mon père avait trouvé un super nom à cette expo. Il l'avait appelé Déraillé, Déraillé vos vies. Il m'avait suggéré ce nom-là parce que j'ai clairement fait ça à cette époque-là. C'est-à-dire que j'ai changé en 2015 de vie, de ma vie entre guillemets de col blanc à l'époque, j'aime pas le terme, mais c'est ce que je faisais dans le, l'énergie solaire, parce que je développais des parcs photovoltaïques en France, à une vie de passionné de la bicyclette et du voyage. Et j'ai essayé d'en faire mon métier, et c'est devenu une réalité aujourd'hui, c'est ce que je fais.
Oui, parce que beaucoup de gens aimeraient peut-être faire comme vous, mais il faut un peu d'argent quand même. Comment on fait les premiers temps, les premières fois, quand on fait comme ça une telle expédition, il faut un peu d'argent quand même. Pour payer le billet d'avion, entre autres, ou le bateau, éventuellement.
Mais ce voyage en 2015, il m'a coûté, au global, hors billet d'avion, 1500 euros, et ça a duré 8 mois. Mm-hmm. Parce qu'on dépensait en moyenne, parce qu'on était 3, 8 euros par jour. Ouais. En fait, ça ne coûte pas d'argent, c'est que ça coûte le vélo, et probablement l'un des moyens de se déplacer, de voyager, les plus bon marché de la planète. Mm-hmm. Alors bien sûr, après il y a un billet d'avion qu'il faut arriver à financer, mais au global, pour une semaine qui est guère plus chère que le Club Med, j'ai 8 mois d'aventure avec 240 jours dans les Andes, une centaine de nuits sous les étoiles à bivouaquer, quasiment le même nombre chez l'habitant. Donc ça n'a pas de prix, si vous voulez, si vous réunissez les budgets globaux, il y a 2500 euros pour 8 mois de vie. Mm-hmm. Et clairement, moi, c'est ce que j'ai appris sur ce voyage, c'est que on a aussi cette hésitation à un moment donné où on est dans un système où, bien sûr, sur 8 mois, on essaye de gagner plus de 2500 euros au total par mois. Ça serait un super objectif. Mais quand vous dépensez 2500 euros sur 8 mois, vous changez complètement de référentiel parce que vous vous dites « j'ai été particulièrement heureux, j'ai découvert des choses extraordinaires, j'ai rencontré des gens extraordinaires que j'ai eu la chance de revoir pour certains après cette expédition et je n'ai dépensé que cela ». Qu'est-ce qui se passe si j'en fais ma vie, en fait? Donc moi, j'ai essayé de trouver un entre-deux, de rentrer à la maison et de continuer de pouvoir vivre ces aventures où finalement, on ne dépense pas grand-chose d'un point de vue pécunier. En revanche, ça coûte physiquement. L'investissement, il est là. C'est que, bien sûr, physiquement, c'est extrêmement difficile et ça se paye un petit peu au prix de sa santé. Mais quelque part, c'est le prix à payer de l'aventure. Et Jack London l'avait écrit bien mieux que moi dans L'Appel de la forêt. C'est quand on décide de vivre un peu ces vies fulgurantes, il y a un appel après et il faut répondre à l'appel et y aller.
Oui, parce qu'on change de climat, on change aussi d'horaire, tout ça, il doit falloir s'y habituer quand même. Hein.
Mais là-dessus, on vit une époque particulière parce qu'on essaie de tout rendre dans la... Enfin, il y a un système de normes qu'on essaie d'imposer un petit peu partout. On essaie de tout régler avec des cadres, avec des chronomètres. On essaie de tout compter, on essaie de tout comptabiliser et surtout on essaie de tout prédire, ce qui est encore plus grave à mon sens. Alors qu'au final, la Terre, je dirais, fonctionne toujours de la même manière et on n'y comprend pas grand-chose. Donc moi je suis de ceux et je suis de cette école qui pense que tout prédire, tout comprendre, tout savoir, tout compter à la fin ne permet juste de savoir qu'on sait rien ou pas grand chose. Donc il faut se préparer à l'imprévisible pour ce type d'aventure, c'est sûr, mais c'est plus une capacité intérieure finalement de se renouveler en permanence quand on fait ce type de voyage. Et après, le corps s'accoutume, et je pense qu'on est fait pour ça, on a ça dans notre ADN, quand je dis nous, toute l'humanité, hein, de s'adapter en permanence, parce que l'humanité a vécu des choses extraordinaires et bien plus difficiles que tous les voyages réunis que j'ai pu faire, qui sont finalement très faciles par rapport aux conditions d'où on vient. Et c'est bien de se le rappeler, parce que quand il fait moins 20 dehors et qu'on est un petit peu équipé et qu'il y a quelques réflexes à avoir, et ben on ne meurt pas. Quand il pleut, c'est pas grave. Quand il y a de la neige et que ça glisse, c'est normal. Et que quand il fait chaud, et ben il faut se protéger. Et ces réflexes-là, finalement, on commence à les perdre avec tout un tas d'outils qui sont censés être des boussoles, alors que c'est des portes fermées vers notre sens de l'orientation.
Et puis, je suppose que votre regard et votre philosophie sur la vie, elle a fatalement évolué, elle a fatalement changé.
Oui, parce que en plus j'ai eu la chance et la volonté peut-être intérieure, mais non assumée, d'aller dans des endroits finalement qui sont empreints de plein de préjugés ou de visions assez caricaturales, notamment le Venezuela par exemple, pour ne citer que ce pays, ou la Bolivie ou Taïwan tout récemment. Et c'est clair que le voyage à vélo m'a donné ça. Ça bat en brèche toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Et ça nous permet, quelque part, d'enlever les lunettes et de regarder, d'observer, de discuter, d'échanger avec les gens qui vivent la réalité que l'on nous décrit de loin, avec des images et parfois des récits. Là où, quand on est sur le terrain et qu'on est au contact des gens, on se rend compte que leur réalité est bien différente de ce qu'on nous avait décrit. Et qui sont bien souvent bien plus gentils, bien plus amoureux de la vie comme nous, et ces barrières qu'on cherche à souvent édifier sont édifiées par un système qui me paraît inconnu pour moi, parce que quand je suis dans un pays, que ce soit au Venezuela ou en Bolivie ou à Taïwan, eh bien, je trouve que le lien reste identique, curieusement, malgré la différence de culture. Il y a quelque chose qui nous unit tous, et c'est important de le sentir, et moi c'est une harpe sur laquelle je joue, de rester en contact avec ces gens-là et d'aller, j'adore aller battre les idées en brèche.
Vous parlez quand même plusieurs langues, anglais, espagnol, c'est le minimum.
Je parle anglais couramment, oui, parce que j'ai eu un excellent prof d'anglais à Chartres d'ailleurs, que je salue s'il est encore en vie et qu'il nous écoute, monsieur Chevrier, qui m'a passionné pour la langue anglaise à cette époque-là et sur le vocabulaire notamment. Et après l'espagnol que j'ai appris sur le terrain, pour le coup avec une méthode non académique, à vélo. J'ai appris l'espagnol à vélo en traversant de la Colombie à l'Argentine. Donc ça m'a aidé à effectivement avoir un contact avec les peuples d'Amérique latine. Et puis quelques notions maintenant de mandarin qui commencent à arriver. Et puis d'arabe aussi, puisque j'ai fait plusieurs pays, en tout cas au Moyen-Orient. Après, c'est un réflexe quelque part. Plus on voyage, plus on a la chance d'apprendre et d'absorber et d'infuser les cultures que l'on traverse. C'est aussi le but du voyage. Hein.
Et quand vous revenez en France, notamment sur Paris, et puis là où vous habitez dans le sud de la France, comment vous trouvez notre pays? Les gens agressifs, notamment, non?
Alors c'est une vision qui a évolué. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'entre 2011 et aujourd'hui, clairement, je pense que je ne suis pas le seul à sentir qu'il y a un changement, clairement, de comportement qui est lié à plein d'usages qu'on a au quotidien, qui transforment nos vies sans le dire, notamment à la fois les réseaux sociaux, le téléphone, l'instantané et la dictature de l'instant que j'aime évoquer, qui consiste à imaginer que c'est normal de communiquer tout le temps, en permanence, à toute heure, avec n'importe qui, alors qu'on oublie de dire bonjour à sa mère et à son père, alors qu'on est là-bas et on est ici grâce à eux. Donc moi je l'observe avec circonspection. Je suis étonné de voir la direction que ça prend, parce que à la fois on a des outils qui nous permettent de pouvoir établir du lien qui sont démiurgiques, vraiment qui feraient pâlir les Grecs et la vision qu'ils avaient à l'époque des dieux, puisque clairement on a des puissances technologiques qui sont bien supérieures à ce qu'ils pouvaient avoir à l'époque. Et malgré ça, on est très loin d'être des dieux, puisque je pense qu'on oublie certaines choses fondamentales. Et le seul moyen, mais là je vais répéter des banalités, d'arriver à s'en détacher un petit peu, c'est de sortir des écrans tout simplement. Se trouver comme on est là, en pleine nature, savoir lire ce qui se passe autour de nous, savoir écouter qu'il y a beaucoup d'organismes qui naissent et meurent autour de nous, et ça permet de comprendre que la Terre, elle tourne pas, c'est pas la Terre qui tourne autour de l'homme, c'est les humains qui tournent autour de la Terre et rien d'autre. Bien
sûr. Et votre vision par rapport au quotidien, par rapport au contact humain, comment vous les trouvez?
Je dirais que ça, il y a clairement un petit peu de nervosité et d'excitation qu'on peut ressentir chez les gens, mais qui sont liés finalement à la manière dont on communique. Hein. On est précipité en permanence par tout un tas de parasites, parce que je vais appeler ça du parasite, des notifications, des messages, ça sonne de partout. Juste avant l'interview, j'ai quelqu'un qui m'appelle. Enfin voilà, on est ultra sollicité. Il y a quelqu'un qui avait très bien écrit sur le sujet, c'est Jean Baudrillard, avec son concept de l'hypercommunication. On est clairement dans l'ultra-communication aujourd'hui. Et dès lors qu'on déconnecte les gens de cette ultra-communication, il suffit juste de couper l'écran et de dire « Attends, pause, on va juste se mettre dans un cadre différent. » Bah, très vite, le naturel revient. Donc moi, je suis assez confiant sur l'avenir des Français et plus largement de l'humanité. C'est que dès lors qu'on prend le temps de sortir un peu la tête de l'eau de la technique, bon, les réflexes mettent un petit peu de temps à revenir, mais on a appris à marcher avant. Donc,
Donc vous n'êtes pas trop déboussolé comme le marin qui revient sur Terre une fois donc avoir parcouru le monde entier sur son bateau, quoi.
Non, parce que moi, je suis un marin des terres. Oui. Je suis très terrestre, ouais, comme explorateur, et pour le coup, je me nourris des rencontres, c'est-à-dire que c'est mon carburant. Au-delà de l'eau, de l'alimentation et voilà, de cette capacité physiologique à survivre à l'effort, ma nourriture, c'est les humains. C'est-à-dire que c'est, alors je suis pas cannibale, hein, mais je me nourris des rencontres, des échanges fortuits, impromptus qu'on peut déclencher uniquement par ce type de voyage. Et le vélo, grâce notamment à la distance qu'on peut parcourir, parce que moi je peux parcourir jusqu'à 400 km par jour, donc ça permet vraiment de traverser quasiment la France en moins de 2 jours et demi, mais ça multiplie les rencontres également, parce que ça veut dire qu'on passe 15, 16, 17 heures sur le vélo, mais qu'on s'arrête au moins aussi souvent pour pouvoir se ravitailler, et c'est autant de prétextes, mais là c'est une démarche de vie, d'aller à la rencontre des gens. Donc au contraire, je trouve que c'est un très très bon moyen de pouvoir se nourrir en allant à la rencontre de l'autre, alors avec une prothèse, c'est le vélo.
Alors justement, senior, physiquement, parfois il y a des petits coups de moins bien physiquement, et comment on les gère?
Ben, le vélo, là-dessus, s'il y a bien une promesse du Tour de France qui n'est pas fausse, c'est que c'est faut pédaler, quoi. Et c'est, je pense, l'un des sports les plus difficiles de la planète, ou en tout cas l'un des sports les plus difficiles que l'humain ait créé, parce qu'il n'y a pas de cadeau, c'est sans compromis. Le seul moyen de pouvoir faire ce type de voyage, dans le rythme bien sûr que j'ai, hein, parce que voilà, j'ai un rythme aussi un peu particulier qui parfois consiste à aller vite et très loin et très fort, tel un météore, quoi. Il demeure que le seul moyen d'y arriver, c'est la rigueur, c'est la régularité, mais quelque part c'est les valeurs du sport. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Hier soir, encore à 21h, j'étais sur un home trainer, je faisais le Puy-de-Dôme, alors sur un appareil simulé, mais il y avait quand même 950 mètres de dénivelé. Voilà, c'est la régularité, la rigueur qui paye, pour le comme tous les sports finalement. Ouais. Mais le vélo a vraiment cette difficulté, c'est pas juste de l'adresse, c'est pas juste de la dextérité. Il y a vraiment une notion de préparation corporelle, physique, qui est essentielle. Parce que vous pouvez avoir l'équilibre, vous pouvez avoir la dextérité, vous pouvez savoir piloter un vélo. Si vous n'avez pas la capacité physiologique de vous maintenir et de vous entretenir, un petit peu tel un Chinois qui pratique le Qigong tous les jours, tous les matins que Dieu fait, vous le payez tout de suite et le corps casse. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mais je dis que le vélo, c'est probablement l'une des plus belles hygiènes de vie qui existent aujourd'hui.
C'est la question que j'allais poser. Vous menez donc une vie de sportif de haut niveau. Vous faites attention à votre alimentation, vous faites attention à ce que vous buvez, et puis donc cet entraînement dont vous avez parlé.
Non, je fais attention à rien. Je fais attention à rien du tout. Je ne me prive de rien, entre guillemets. En revanche, c'est comme les rencontres avec les gens. Quand je sens que quelqu'un me veut du mal, et on a cette capacité humaine, dès lors qu'on va la chercher, qu'on l'utilise, eh ben, je m'en éloigne. Eh ben, la nourriture, c'est la même chose. Quand il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous font du mal, c'est clair, et qui sont conçues pour ça d'ailleurs, et c'est marqué dessus sur l'emballage, je m'en éloigne. En revanche, tout ce qui fait du bien au corps, je m'en nourris avec grand plaisir. Et Dieu sait qu'on a beaucoup de choix en France côté gastronomie. Côté athlétique, ça demande pour faire ce que je fais aujourd'hui depuis 2015, entre 700 à 1000 heures à peu près d'effort pour faire ce type d'expédition. Donc c'est clairement un régime d'athlète pour le coup. Même si je ne me considère pas comme un athlète, c'est plus une rigueur de vie qui fait que ça fait partie de mon calendrier, ça fait partie de mon agenda, et que s'il y a un rendez-vous, un moment où je dois me préparer physiquement, c'est aussi important la préparation physique, parce qu'elle fait partie de la construction mentale derrière dont j'ai besoin pour faire ce type de voyage, quoi.
Alors justement, on pense à quoi quand on est pendant des kilomètres et des kilomètres sur son vélo, seul, en solitaire?
Eh bien, je vais faire un parallèle avec l'époque où on ne pense plus à rien, puisqu'on a tellement de choses dans la tête qu'à la fin, on n'a plus le temps de penser à rien. Moi, je pense à tout.
Oui.
Ou en tout cas, je pense à l'essentiel. C'est-à-dire que le vélo a cette capacité, quand on est sur des efforts, donc il faut resituer pour les gens qui nous écoutent. J'ai déjà parcouru 500 heures de vélo, 100 jours de repos, en enchaînant du coup 50 jours, en faisant 10 heures de vélo par jour. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est beaucoup bien sûr, mais ça permet de plonger le corps dans une forme de méditation en fait. Comme je serais curieux d'ailleurs d'en discuter avec des athlètes de très haut niveau qui font de la plongée ou qui font peut-être du yoga ou qui font des activités qui demandent beaucoup de concentration. Le vélo dans cette pratique, c'est-à-dire du voyage où vous allez pédaler à rythme doux mais très longtemps, vous plonge en fait dans une forme de méditation qui vous donne accès à beaucoup de choses. Puisque vous regardez les éléments avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de précautions. Et surtout, vous n'êtes pas perturbé par tout un tas de notifications Facebook, Instagram, qui cherchent à vous dire qu'il y a quelque chose d'important dans votre vie qui se passe, alors qu'il ne se passe rien à part un like. Là, clairement, vous avez toutes les choses importantes de la vie qui se déroulent sous vos yeux. À savoir la naissance ou la mort d'un arbre, la naissance ou la mort d'une fleur, la rencontre d'un animal que vous n'avez jamais vu. Bref, vous observez la vie naître et mourir. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ou qui peut-être n'ont jamais eu encore la chance de voir ça. Donc c'est presque une renaissance à chaque fois que je pars en vélo, quoi. C'est plus le fait de retourner dans le monde civilisé qui est difficile, parce que du coup vous êtes dans un système tellement ultra connecté, hyper connecté, qu'à la fin on ne pense plus à rien. D'ailleurs on commence à déléguer tellement de choses à l'intelligence artificielle qu'on va probablement arriver à ne penser plus à rien.
Votre prochain grand voyage, c'est quand? Comment ça se décide? Vous dites, tiens, ça c'est mon rêve, j'ai envie d'aller dans tel ou tel endroit, sur tel ou tel continent. Le prochain, c'est quand? Vous repartez quand?
Mais demain.
Demain.
Ouais, en fait, c'est...
Après les différents médias.
Je suis toujours parti et je suis toujours là. C'est... Je dirais que le déclenchement, il n'y en a pas vraiment. Ça devient après un... Ça devient une hygiène de vie. C'est sûr que je vais repartir où, comment et pourquoi le prétexte arrivera de manière naturelle.
Ah, vous le décidez comme ça d'un coup?
Non, il y a bien sûr des idées. Il y a un continent qui a été très peu exploré qui me fait rêver. Donc bien sûr, il va y avoir encore des traversées continentales. Je l'espère en 2025 et un énorme projet en 2026. Ouais. Mais... Comme disait, je vais citer un auteur que j'aime bien, qui est décédé malheureusement, qui s'appelle Nicolas Gégère. Les mécènes se font rares.
Ah oui. Oui, parce que vous avez besoin de partenaires. Vous vivez maintenant, vous l'avez dit, de votre activité. D'abord, comment? Vous êtes naturellement sur tous les réseaux sociaux, une sorte d'influenceur. Je l'ai dit, vous vivez, mais vous écrivez aussi des livres. Et puis, vous répondez probablement à des conférences sur vos voyages.
Bah, c'est une myriade d'activités en fait, puisque aujourd'hui je pense qu'on est dans... En tout cas moi j'ai commencé à travailler en 2007, donc juste avant la crise des subprimes. Et clairement ça n'a pas été la folie en 2008 quand il s'agissait de trouver un travail. Et aujourd'hui on vit une époque, et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui bossent, qui nous écoutent le savent, on est obligé un peu d'avoir ce caractère touche-à-tout, parce que le système dans lequel on évolue demande ça. Et appelle ça pour plein de raisons qui prendrait trop de temps à expliquer, mais donc je suis quelque part ce que le système nous dicte et je fais beaucoup de choses. Il y a de l'activité sur les réseaux sociaux, mais qui rapporte de la visibilité, mais pas vraiment de quoi vivre. Je travaille en tant que pigiste journaliste pour plusieurs magazines français et internationaux. J'ai sorti un ouvrage tout récent. Il y a de la conférence parfois en entreprise ou auprès des collectivités aussi, parce que j'aime bien faire des activités caritatives, notamment chez les jeunes, dans les écoles, j'adore ça. Et plus c'est jeune, plus j'aime ça. Parce que
vous les faites rêver en plus.
Oui, et puis ça permet d'avoir une manière de raconter les voyages à un public qui est différent, parce qu'on ne raconte pas de la même manière à un enfant de 5 ans comme à un ado de 16 ou 18 ans. Donc j'aime bien garder cette hygiène-là, de pouvoir partager ses aventures à la jeunesse. Et puis après, j'ai une activité, bien sûr, d'organisateur, d'événements. J'organise des courses avec une série mondiale qui s'appelle le Biking Man, qui est un championnat d'ultracyclisme qui rassemble des amateurs, des héroïnes et des héros du quotidien sur des formats de 1000 km. La règle, c'est de tenter de parcourir 1000 bornes à vélo, parfois sans dormir, en moins de 5 jours, en moins de 120 heures.
Et ça se fait sur les 5 continents ?
Alors, pas sur les 5, mais j'espère. Ouais. J'espère que le 5e, un jour, j'arrive à organiser quelque chose là-bas. Donc, je plaisante, bien sûr, mais on organise des épreuves en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique et en Asie, en Extrême-Orient.
Et donc, les partenaires, quand vous venez frapper aux portes, ils sont encore un petit peu réticents quand même ?
Non, ils ne sont pas réticents, au contraire, ils sont très excités. Quand je faisais parallèle avec Nicolas Gégère, les mécènes se font rares, c'est parce que dans la phrase complète, de mémoire, je le paraphrase, c'était donc il faut bien accepter quelques accommodements. Et moi, les accommodements, c'est quelque part, qu'il y ait des partenaires ou pas sur certaines expéditions, je prends la décision d'y aller. Et en fonction, ça demande plus ou moins de moyens, en fonction de ce qui va se réaliser. Est-ce qu'il va y avoir un photographe comme David, un de mes associés, ou est-ce que je vais partir seul? Et quelque part, c'est ça qui va dicter le contexte du voyage. Mon rêve, moi, c'est bien sûr de pouvoir raconter ces aventures extraordinaires sur le média que je recherche, qui est la télévision, ou en tout cas qui est le format télévisuel, c'est-à-dire à la fois audio et vidéo, parce que ça permet de pouvoir raconter l'histoire de manière différente qu'en photographie ou en texte. Après, ça demande beaucoup plus de moyens, parce qu'il faut un réalisateur, il faut un cadreur, il faut un véhicule, souvent, pour transporter ces gens-là. Et puis, il faut les emmener dans les endroits où je passe à vélo, qui sont parfois plus faciles à traverser à vélo qu'en voiture. Mais c'est le moyen de pouvoir raconter des histoires avec un support qui parle à tous, quoi. Puisque la vidéo, c'est pas vous que je vais apprendre ça, c'est vraiment un format aujourd'hui qui est en train d'exploser en termes de besoin de contenu, j'allais dire, et puis d'appétence générale du public.
Oui, parce qu'on va quand même rappeler que pendant vos voyages, on peut vous suivre jour par jour, hein, à travers vos réseaux notamment.
C'est ça, c'est que indépendamment de tout ce que je viens de dire, c'est avec une réalisation professionnelle où j'ai déjà eu la chance de faire plusieurs documentaires et suivi de ces aventures, moi je filme un peu dans l'esprit d'un marin du Vendée Globe. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à Benjamin Ferré qui est actuellement sur le Vendée. Je me filme, je raconte, j'essaye en tout cas de raconter avec les moyens techniques en ma possession ce qui se passe. Donc, c'est, je dirais, assez basique, assez primaire, puisqu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être à vélo, survivre à 5000 mètres d'altitude et puis raconter une histoire comme si on avait un réalisateur et des moyens techniques tout autour de soi. Donc on fait avec les moyens du bord. Après, on a la chance d'avoir quand même aujourd'hui des outils technologiques qui permettent de, effectivement, se connecter à l'aventure, monter sur le guidon d'Axel et puis voir ce qui se passe tout autour de lui, les rencontres qu'il fait. Donc j'essaie de partager un maximum.
Il n'y a jamais eu de gros pépins pendant vos différents voyages ?
Si, plein. Si, ouais, tout le temps. Tout le temps, il y a des pépins mécaniques, il y a de la casse, il y a de la chute. Hors interview, tout à l'heure, on parlait du Laos où je m'étais engagé sur la traversée de la piste Ho Chi Minh. Premier jour, je m'explose par terre à fond la caisse à VTT et je risque de me faire une clavicule. Et c'était une expédition qui allait me demander presque un mois. Donc c'était le tout début. Ça, c'est pour la problématique de chute. Hein. Le vélo est un sport d'équilibre avant tout, un sport de funambule. Et pour le coup, ce risque-là, vous l'avez en permanence. Après, il y a le risque physique. Je ne vais pas lister tous les soucis physiques que j'ai eus, mais il y a eu beaucoup de souffrance, ça c'est clair. Beaucoup de petits pépins qui peuvent devenir très très graves de par la répétition d'un effort sur une selle. Mais bon, globalement, on n'en retient que le positif de tout ça. Je ne vais pas faire une énumération de toutes les difficultés et souffrances que je me suis infligé, parce que moi, généralement, on oublie tout après, quand on fait le bilan du voyage, ce qui est le but.
Et sur le côté administratif, comment ça se passe quand on traverse certains pays quand même ? Il y a des douanes à franchir à vélo quand même.
Il y a parfois quelques personnes avec des AK-47 et des grenades, ouais. Ça arrive. On a un pays, il faut le rappeler, la France, bon, qui a un réseau diplomatique qui n'est plus le même qu'il y a une cinquantaine ou il y a une quarantaine d'années. Et là-dessus, je le vois quand j'échange avec des personnes qui habitent dans des contrées très éloignées de chez nous. Mais on a la chance quand même d'avoir encore des conditions diplomatiques de voyage qui sont particulières, où on a des visas de 90 jours dans beaucoup de pays du monde. Bon, la liste est en train de rapetissir, mais il faut s'en souvenir, parce que clairement, ça aide beaucoup par rapport à d'autres nationalités qui n'ont pas cette chance de pouvoir voyager dans plein de pays du monde. Ce n'est pas le cas des Français. On a encore un beau réseau diplomatique. J'ai souvenir d'avoir été accueilli d'ailleurs par l'ambassadeur de France au Venezuela. Et on avait évoqué ce sujet-là justement, cette chance que l'on a de pouvoir voyager encore avec des conditions de visa qui sont facilitées par rapport à d'autres nations qui n'ont pas cette possibilité-là. Et là, pour le coup, vu qu'on est dans un système qui contrôle tout, avec des caméras et ainsi de suite, vous pouvez être à l'autre bout du monde, que vous pouvez être surpris des moyens techniques qui sont mis en œuvre par l'humain pour servir de frontière.
Mais il n'y a jamais eu de gros problèmes quand même.
Non, globalement, j'ai jamais eu de soucis, au contraire. Ouais. Au contraire. Mmh. Là-dessus, c'est... Je sais m'adapter et les postes frontières, il n'y en a pas beaucoup qui me résistent.
Bon, Axel, cette émission touche à sa fin. Enfin, cette interview touche à sa fin. Je sais que vous êtes assez pris par le média. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui voudrait vous imiter, quelqu'un, faites-le, n'hésitez pas, vous ne posez pas de questions. C'est possible, même pour le commun des mortels.
Ça serait un seul mot, ouais. L'audace. Ouais, c'est ça. Faire preuve d'audace, parce que c'est une porte d'entrée vers... beaucoup de choses extraordinaires, que ce soit à vélo ou pas d'ailleurs. Donc faire preuve d'audace.
Bon, il n'y a pas de limite. Tant que vous pourrez, vous le ferez, quoi, ce métier. Et c'est raide à vélo.
Il y en a beaucoup, des limites.
Oui, non, mais c'est-à-dire à 5 ans, 60 ans, vous ne direz pas stop, c'est fini.
Je ne pense pas que le vélo soit prêt à me dire adieu. Ouais. Mais bon, à un moment donné... C'est la chance du vélo, c'est un sport porté, il faut le rappeler pour les gens qui nous écoutent, c'est comme la natation, c'est des sports qui, ou en tout cas des pratiques physiques qui sont accessibles à beaucoup plus de gens qu'on ne le pense, de par le fait qu'on est porté. La natation, on est porté par l'eau, le vélo, on est transporté par la machine, ce qui rend accessible cette pratique par rapport à la course à pied par exemple, qui est assez contraignante et assez traumatisante. Bon, il y a des gens qui font du vélo et des défis à plus de 70 ans, 75 ans. Donc j'espère et je me souhaite de très très beaux vieux jours.
Merci en tout cas d'être passé au micro de Montparnasse FM. Hein. Je sais que vous avez une journée bien remplie pour les médias et puis vous viendrez un jour en direct dans le studio.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Merci beaucoup. Voilà, merci au Mike Horn, donc du sport cycliste au long cours. Vous avez vu un aventurier qu'on a pu suivre avec beaucoup de passion. La pause musicale et ensuite donc on passe donc au monde de la photo. No dark side. Voilà, bah, cette émission, vous pourrez donc la réécouter en podcast. Alors, je vous ai dit, on va parler du monde de la photo, mais la photo sportive avec notre invité, donc Jean-Denis Walter. Alors, Jean-Denis, première question, toute simple. Comment elle arrive, cette passion pour la photo? C'est lié à travers le sport, hein.
Oui, enfin, c'est deux passions que j'ai mêlées. C'est-à-dire que, en fait, ma mère travaillait dans la photographie. Elle était iconographe pour l'édition. Rien à voir avec le sport.
Non.
Mais elle m'a transmis le goût de la photographie, l'admiration pour les photographes et leur travail, on va tout ça. Et parallèlement à ça, j'étais passionné de sport, je jouais au rugby, j'adorais ça et je m'intéressais à tout. Et en fait, ensuite, ma carrière, c'est la réunion de ces deux passions. Ouais.
Et l'entrée d'équipe, elle se fait comment?
Elle se fait un peu par hasard. À la fois, ma mère était donc iconographe, elle avait créé une agence de iconographique, donc avec plusieurs personnes qui travaillaient avec elle, et elle répondait aux demandes d'éditeurs pour des livres illustrés sur l'art, etc. Et un jour, s'est présenté une encyclopédie de sport à faire pour Robert Laffont. Personne ne voulait la faire à l'agence, tout le monde trouvait le sujet chiant. Et moi, je démarrais, et pourtant j'ai dit, mais moi je vais le faire. Et donc je me suis occupé de cette encyclopédie en travaillant avec l'auteur, en cherchant des photos dans les grandes agences du moment, et notamment l'agence Presseport, qui est l'agence photo de l'équipe, qui avait, au bout du compte, dans ce livre, je dirais, les deux tiers des photographies publiées, mais surtout, ils avaient été fascinés par ce que j'avais réussi à faire en partant de leurs archives, c'est-à-dire qu'ils avaient presque découvert des photos, en disant « on avait ça ». Et donc, en fait, ils m'ont proposé un poste. D'accord. Ça s'est passé comme ça. Mm-hmm. Et donc, j'ai quitté l'agence maternelle pour intégrer l'équipe au service photo. Et nous sommes en 82.
D'accord. Ah oui. Après, vous en êtes parti, puis vous
J'en
en êtes
trop
venu.
J'en suis parti assez vite parce que je sentais que je n'allais pas grandir, que c'était compliqué, que c'était un peu sclérosé quand même.
Donc, vous êtes allé sur le terrain après donc...
Non. J'ai changé de journal, toujours au service photo.
D'accord, ok.
VSD, puis le groupe Prisma Presse. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le truc, mais 98, je suis encore dans le groupe Prisma Presse, où je me suis occupé de Capital, enfin de plein de titres. Mm-hmm. Et l'équipe, parce que je ne les avais jamais vraiment perdus de vue, mes collègues de l'équipe, d'autant que j'ai participé à l'aventure du sport, un quotidien concurrent de l'équipe en 87, dont j'étais le chef du service photo. Et donc Jérôme Bureau qui avait pris la rédaction en chef de l'équipe, qui était aussi au sport, et Jacques Dédier, qui était à l'époque le directeur de tout le pôle photographique de l'équipe, ils m'ont rappelé pour me confier tout ce qu'était la production de reportage. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où une photo n'existait pas, qu'il fallait la faire, qu'il fallait donc envoyer un photographe la faire, je m'en occupais, le casting, le brief, tout ça. Oui. Et donc, je suis rentré à l'équipe par ce biais. Et puis, je suis devenu directeur de la photo de l'équipe MAG. Et puis, au bout d'un moment, ils m'ont demandé de prendre la rédaction en chef, donc que j'ai assuré en binôme avec un grand reporter. On était deux rédacteurs en chef. Mais plus vraiment avec la spécialité photo ou pas. Je m'occupais de tout. J'écrivais aussi l'édito. Et donc, je suis devenu copatron de l'équipe MAG de 2005 à 2010. J'ai quitté l'équipe en 2012.
Oui, comme beaucoup de confrères qui sont partis à cette époque-là.
Il y a eu des moments un petit peu compliqués pour la presse écrite.
Oui, c'était un besoin naturel de partir, de faire autre chose, de franchir un autre.
Ouais. De toute façon, au bout d'un moment, je dirais que tous les journalistes de ma génération qui pesaient...
On en connaît beaucoup.
Voilà, qui pesaient un peu sur parce que c'était des salaires d'avant, c'était des habitudes d'avant, et donc, même moi, on s'entendait très bien, et c'était désolé, mais on m'a dit, c'était... Donc, voilà. Mm-hmm. Et donc, j'ai même pas cherché en presse écrite, parce que ça n'existait pas, et puis après... la rédaction en chef de l'équipe MAG, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire.
Oui, c'est vrai que...
Et puis, j'avais en tête cette idée de galerie, parce que déjà, quand j'étais à l'équipe, de temps en temps, je voyais passer des photos, je me disais, ça c'est vraiment exceptionnel. Et j'en ai même parlé à la direction à l'époque en leur disant, peut-être l'idée de créer une galerie où on vendrait les tirages originaux des plus grandes photographies des photographes de l'équipe, ce serait pas mal. Et puis, des éditions limitées, enfin, vraiment l'œuvre originale, que j'expliquerai ça un peu plus en détail si vous le souhaitez tout à l'heure. Et puis, en fait, ça ne leur parlait pas. Ils ne comprenaient pas très bien la limitation, la numérotation et comment ça se passe et pourquoi c'est une œuvre et pas... Une photo, pour eux, c'est une photo de la pâte à fixe sur un mur, c'est terminé. Ce n'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Et donc, du coup, Je suis parti et j'ai réfléchi à cette galerie. Les photographes, les plus grands photographes du sport du monde entier, je les connaissais de par mes années à l'équipe MAG. Et donc, ils m'ont suivi. Quand je leur ai dit, je vais créer une galerie, est-ce que ça vous intéresse de l'intégrer et que je vende les œuvres originales ? Ils ont suivi. Et donc, j'ai constitué mon catalogue assez vite. Et puis après, il a fallu développer la galerie.
Oui, c'est ça. On va rappeler galerie qui se trouve à Joinville-le-Pont. Hein.
Voilà, la galerie permanente est à Joinville-le-Pont. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une galerie. C'est plutôt moi, un showroom. C'est là que j'ai tout mon stock et tout ça. Pour les expositions, et c'est plutôt là qu'il faut venir, je loue mon ancienne galerie parce que j'ai passé les 6 premières années de la galerie Boulevard de la Tour Maubourg au 56. C'est presque à l'angle de la rue de Grenelle, c'est aux Invalides. Et en fait, après, c'était trop petit. Et puis le mètre carré à Paris, c'est compliqué. Donc j'ai tout déménagé à Joinville. Mon stockage, notamment, qui est gigantesque, je dois avoir 500 pièces prêtes, dont des grands formats. Enfin, c'est énorme. Mais Joinville, pour faire une expo, c'est pas possible. C'est trop loin. Ouais. Personne ne va prendre la 4 pour aller boire un verre de blanc. Ça n'existe pas. Donc, je continue de louer mon ancienne galerie à intervalles réguliers. Je dirais une semaine tous les 2 mois, parfois plus. Là, par exemple, j'y ai passé tout l'été pour les Jeux de Paris.
Ah, oui, oui, oui.
Mais généralement, je fais des périodes plus courtes. Et donc, du coup, c'est le don. Là, par ma newsletter, les gens savent que je vais exposer. Ils savent le jour du vernissage. Et donc, je les vois comme ça. Mais malgré tout, je fonctionne avec une lettre où je raconte une photo, un auteur, je raconte des histoires. Et où les gens, ils n'ont pas forcément besoin de venir pour acheter. C'est-à-dire que même les gens qui ont déjà acheté la galerie, qui voient la qualité des tirages, des encadrements, en fait, même sur le site, ils peuvent choisir. Ils disent, bah, Jean-Denis, je vais prendre celle-là, dans tel format, blablabla. Ouais. Parce qu'ils ont déjà l'habitude. J'ai créé vraiment un truc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont devenus des collectionneurs, vraiment, qui construisent une collection. J'ai au moins, je dirais, une vingtaine de clients à plus de 20 tirages, à 30 tirages, j'en ai même un à plus de 60. Ça commence à être une collection. Et où ils vont même de temps en temps, bon, je connais un peu leur goût, je sais ce qu'ils cherchent,
oui, oui,
mais ils vont pouvoir de temps en temps même me demander un conseil. Tiens, pour ma collection, là, qu'est-ce que t'en penses ? À quel auteur me manque ? Ou donc, où est-ce qu'est-ce qu'il faudrait que je pour lui donner un peu de, vous voyez un peu le truc, pour sortir un peu de ce que j'ai.
Ouais. Bon, cette galerie, elle fonctionne comment ? Comment vous vous procurez différentes photos ? Vous marchez en poule avec les photographes ?
Voilà, c'est une galerie comme une galerie de peinture. C'est-à-dire que quand je vends un tirage, 50% de la somme va à l'auteur, 50% reste à la galerie. On passe un contrat, on décide de combien on met de tirages en vente. Ce chiffre, ce nombre de tirages qui va être mis en vente, il est immuable, il est éternel, y compris parce que c'est malheureusement arrivé dans le cas du décès de l'auteur, où le contrat va passer sur ses ayants droit, son épouse, ses enfants. L'édition qui a été décidée, à partir du moment où on a commencé à vendre, un acheteur a donc acheté un tirage en disant qu'il y en aurait 10 en tout. Vous ne pouvez plus changer. Lui, il l'a acheté en connaissance de cause, c'est donc gravé dans le marbre pour toujours. Et les tirages photographiques qui sont vendus comme ça, donc en édition limitée, la loi dit qu'il ne faut pas dépasser 30 exemplaires, tout format confondu. Et dans ce cas-là, le tirage photographique a le statut fiscal d'œuvre d'art originale, au même titre qu'une peinture ou qu'une sculpture. Et donc, c'est ce que je vends.
D'accord.
Et en fait, l'idée de la galerie, c'était de redonner ces lettres de noblesse à la photographie de sport et de faire passer des grandes photographies de sport, des pages des magazines au mur d'une galerie. Et c'est donc pas toutes. Il faut vraiment qu'elles aient quelque chose en plus. Et donc, voilà.
Et qui fixe le montant ?
On en discute. Moi, je commence à avoir un peu d'expérience. Au début, je tâtonnais un peu. Je dirais que c'est pas tout à fait évident. Vous avez raison, c'est une bonne question. Je dirais qu'à partir du moment où une photo est vendue à un prix, c'est son prix. Si elle est vendue, c'est la preuve que...
Oui.
Mais au début, voilà, et combien on est en vente et tout ça. Donc, c'est vraiment un truc qui s'est affiné parce que là, j'ai quand même ouvert en 2013, ça fait 11 ans. Je commence à avoir un peu de métier. J'ai beaucoup fréquenté la première année, donc je quitte l'équipe en 2012. Il s'est passé un peu plus d'un an avant que j'ouvre, que j'ai passé à me familiariser avec la fiscalité de l'art, des œuvres, comment ça allait se passer, quel TVA et machin. Comment fonctionnait une galerie ? Donc, j'étais plus ou moins bien reçu parce que même si j'étais sur un thème qui n'existait pas, les autres galeristes, bon, pas forcément très très partageurs de leur... Mais certains si. Je pense notamment à la A Galerie, Arnaud Adida, qui a été très proche de moi. Il m'a expliqué, on se connaissait d'avant, et lui, il n'a pas du tout une galerie de sport. Il a de temps en temps des photos de sport, mais assez peu. Mais comment ça fonctionne, comment je devais faire. Donc après, voilà, on grandit sur le tas.
Quelles sont les photos les plus recherchées, les plus demandées?
Je dirais quand même que...
Je suppose que celles des Jeux, elles vont venir parmi
les
premières.
Celles des Jeux ont très bien marché, ouais. Mais il y a même eu... je dirais enfin, il y a... En règle générale, malgré tout, les photos d'icônes, de grandes légendes du sport, sont quand même celles qui se vendent le plus souvent. Je parle de Mohamed Ali, ah oui. De Pelé, de Maradona, de ce niveau-là. Roger Federer, etc. Mais il faut que la photo, parce que des photos, ils sont en effet des millions d'eux.
Oui,
il faut que
sûr.
La photo sorte de l'ordinaire, mais que ce soit, voilà. Mais effectivement, et maintenant que vous posez la question, au moment des Jeux, donc je suis dans ma galerie de la Tour Maubourg, que j'avais louée pour un temps assez important, tout l'été, quoi, en gros. Et là, j'ai des photographes de la galerie qui sont déjà représentés par la galerie, qui sont engagés, qui vont à l'escrime, au judo, à la natation. Donc, ils commencent à m'envoyer des choses. Dès qu'ils avaient une photo qui leur semblait un peu... Et puis, donc, le catalogue commence à se nourrir et les gens commencent à acheter des photos des Jeux qui sont en train de se passer ou des Jeux qui viennent de se terminer, je dirais. Et même des paras. Et puis, il y a d'autres photos que j'ai repérées, comme tout un chacun, que j'ai vu passer sur les réseaux. On parle de la photo du surfeur brésilien Gabriel Medina, qui a fait un buzz incroyable. Le photographe, qui est un Français basé à Tahiti, a finalement rejoint la galerie, alors qu'il était ultra sollicité. Mais bon, voilà, j'ai quand même une petite réputation. Et puis, il y a aussi cette photographie... de la rue Le Pic, avec le peloton qui monte là, pendant la course en ligne.
Ça aussi.
Avec la ligne de fuite, la foule en délire, Paris en fête, parce que ces Jeux, enfin, au-delà de l'événement sportif, quand vous en parlez aux gens, ça constitue un souvenir absolument exceptionnel pour l'ambiance. Moi, je suis parisien depuis toujours, ou quasiment, je suis arrivé à l'âge de 6 ans, je n'ai jamais vu ma ville comme ça, je n'ai jamais autant aimé Paris que pendant cette quinzaine. L'ambiance, les gens de tous horizons, tout le monde content d'être là. Ce n'est pas seulement les événements, l'ambiance, elle même marcher dans Paris, c'était un bonheur absolu.
Et il n'y a que le sport qui peut donner ça, et à travers les photos.
Et donc, du coup, ça a créé une espèce de bulle qui a fait que ces Jeux, ils ont généré un truc comme un souvenir. C'est comme un truc... On savait qu'en plus, ça allait revenir derrière. Ouais. Donc c'était comme entre parenthèses, mais c'était encore meilleur parce que c'était comme une bulle. Et je dois dire que cette photo de la rue Le Pic, j'en reviens là parce que cette photo, je n'ai jamais connu ça dans l'histoire de la galerie. L'auteur, c'est un jeune photographe qui s'appelle Bilal Aoufen qui bossait pour l'organisation Pop Paris 2024. Il fait cette photo un peu perchée sur une fenêtre, donc pas le même point de vue que les autres. La photo, elle est bien construite, mais elle n'est pas... Elle n'est pas si compliquée à faire, mais il est super bien placé, il a le truc. Et elle se met à circuler sur les réseaux, tout le monde l'aime, parce qu'elle est tellement joyeuse. Et c'est pour ça que je vous parlais de la joie, c'est qu'elle raconte Paris, en fait. Et à ce moment-là, il y a un Jonathan Lacôte, qui s'appelle, il est ambassadeur de France en Hongrie, et il la retweet, on ne dit plus comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, monsieur, un vieux monsieur.
Ouais.
Il la retweet en diptyque avec un tableau de Claude Monet qui s'appelle La rue Montorgueil.
Ah oui.
Qui raconte qu'il y a vraiment la même chromie, la même ambiance, une fête dans Paris et la fête nationale, blablabla. Et donc ça relance la rue Le Pic, ça lui donne une sorte de célébrité. Et donc du coup, quand j'en ai discuté avec le photographe, avec Bilal, on a décidé, il me faisait entièrement confiance, il découvrait la vie de galerie. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va mettre 24 tirages en vente. C'est les Jeux de Paris 2024, on va mettre tirages. On choisit les formats, on met 24 tirages en vente. D'accord ? J'en ai plus que 3. Ça veut dire que 21 ont déjà été vendus. Et quand je regardais les adresses des premiers acheteurs, rue Colincourt, rue Lamarque, rue Marcadet, rue des Abbesses, c'est des gens qui étaient dans la rue. C'est des gens qui se sont achetés. Ils avaient envie d'un tirage d'art, d'un truc précieux sur un des plus grands souvenirs de leur vie. Et ils étaient dans Paris, à Montmartre, ce jour-là. Je pense que les gens qui étaient présents ont vécu un truc incroyable. Et donc, voilà. Et donc, ça crée... C'est une émotion, en fait, par rapport à une galerie traditionnelle de photographie où il y a l'émotion esthétique, où il y a plein de choses qui se passent. avec le sport, il y a aussi la corde de la nostalgie qui va jouer.
Bien sûr.
Les grands événements de sport, ça nous a marqués, surtout quand on les a vécus adolescents ou jeunes. Et c'est un truc qui vous marque à jamais et qui est un souvenir heureux. Et je dirais même que les grandes défaites, les grandes tristesses, c'est des émotions tellement fortes qu'on s'en rappelle toute
bien
sa
sûr,
vie.
Bien sûr, on se rappelle du France-Allemagne, nous, en 1980.
France-Allemagne, moi j'aurais pleuré le lendemain, c'était horrible. Ouais, ouais. Donc voilà, et le sport est capable de générer ça.
Alors, est-ce que vous êtes allé voir Les Jours Heureux qui est donc,
l'exposition de la mairie, j'ai pas eu le temps.
Oui, la mairie de Paris, une exposition donc, qui a commencé le 21 décembre, qui va s'achever.
J'ai été au courant parce que j'ai plusieurs fois mars. Qu'il y avait des photos dedans.
Alors, Vanessa, donc, elle, a eu l'occasion d'être à l'inauguration.
Exactement, en présence donc, de la maire de Paris, Anne Hidalgo, de son adjoint au sport des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine, Pierre Rabadan, et donc du commissaire de l'exposition, Benoît Baume. Bah, je vous propose de les rencontrer. Ouais.
Alors, première interview, c'est la maire de Paris.
La maire de Paris, ensuite Benoît Baume. Et donc, pour vous replonger dans l'émotion de CG, vous reconnecter, prendre le temps, aller voir cette exposition. Il vous suffit de réserver un créneau sur le site de la ville de Paris. Donc, on va tout de suite écouter la maire de Paris, Anne Hidalgo.
D'accord.
Et ensuite, Benoît Baume.
Oui. Anne Hidalgo,
le commissaire de l'exposition. On parle d'émotion. Quelle a été la vôtre quand vous y repensez, quand il y a eu la cérémonie d'ouverture et celle de clôture?
Ah, moi, j'ai pas arrêté de pleurer, hein, mais vraiment de pleurer de joie parce que c'est vrai que c'était pour nous et avec Pierre en particulier 9 années de travail. Hein, il y a eu les 2 ans de candidature et les 7 années de préparation. Avec toute l'équipe, avec Tony, avec évidemment toutes les équipes, ça a été quelque chose de tellement fort, unique. Hein, dans nos vies, c'est quelque chose d'unique. Que quand on se retrouve au moment de l'événement, et c'est vrai que Thomas Barr nous avait dit, en fait, tout se joue au moment de la cérémonie d'ouverture. Et une fois que la cérémonie d'ouverture est passée, vous verrez, après, on rentre et on glisse vraiment dans les jeux. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, on a glissé avec la pluie et tout ça, mais on est rentré dans les jeux avec tellement de force, finalement. Et surtout après toutes les polémiques, enfin c'est quand même il y en a marre quoi, il y en a marre. C'est ce qu'on a vécu avant, c'est inhumain par rapport au travail qu'on fournissait. C'est peut-être le jeu, mais enfin on peut jouer différemment. Hein. Les sportifs quand ils jouent, ils ont des règles du jeu et ils racontent pas n'importe quoi. C'est le meilleur qui gagne et en général on gagne en étant authentique et en s'étant entraîné, en étant au sommet de son art. Bon, donc on avait tout ça derrière nous et arriver avec cette cérémonie d'ouverture où les gens sous la pluie, nous en direct, on était reliés avec plein de nos amis qui nous disaient leur émotion. Nous, on leur disait mais vous êtes encore sous la pluie et la pluie, quelle pluie. Enfin, c'était à peu près ça. Donc, on s'est dit là, il se passe quelque chose et nous-mêmes, on le ressentait parce qu'en voyant la cérémonie d'ouverture. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment la joie des gens, quoi. Cette fraternité, cette fraternisation, vous l'avez très très bien montré dans votre photo, parce que on a l'impression dans la photo qui a été prise par une jeune photographe, on a l'impression que c'est une famille qui est en train de célébrer l'élévation de la vasque. Et en fait, c'est des gens qui se connaissent pas et qui sont tous ensemble. Bah, c'était quand même ça, hein, les Jeux de Paris.
Voilà, et puis maintenant, autre interview, ça va être celle de...
Benoît Baume, donc le commissaire de l'exposition et directeur de Fisheye, on va l'écouter tout de suite.
Très bien, on y va.
Les réseaux sociaux avec
la masse. Oui, exactement. Donc c'est en tout cas, c'est pour ça aussi qu'on s'est posé la question aussi de la représentation et que finalement on les a mis dans ce couloir des cérémonies aussi pour que chacun puisse revivre ces moments-là. C'était vraiment l'idée de cette exposition, c'est de se dire que chacun puisse à son niveau être marqué par quelque chose qui finalement était important pour lui et réactive ce souvenir-là.
Et finalement, on revient ici avec ces photos justement qui permettent de figer un peu l'instant. On est un petit peu loin des réseaux sociaux où on a vécu ces Jeux aussi pendant les Jeux Olympiques. Et je voulais revenir sur la volonté justement d'avoir choisi et des photographes amateurs et des photographes professionnels. Comment est née cette volonté? Comment elle s'est développée et affirmée?
Parce que je pense que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été des moments de communion où finalement tout le monde a pu participer. Et donc du coup, finalement, encore une fois, c'est une exposition du point de vue de Paris. Donc c'est pas une exposition internationale sur les Jeux Olympiques. Donc d'avoir le point de vue de chacun sur ce qui a pu être vécu ici, c'est aussi une exposition sur le vécu des Jeux Olympiques, pas forcément sur les Jeux Olympiques en général. Et donc du coup, voilà, on est vraiment sur une exposition qui se passe a posteriori, donc c'était important de retraduire aussi la manière dont chacun avait perçu les choses, et c'était important d'avoir à la fois des auteurs, des belles images, des choses qui nous inspirent, qui montrent les jeux différents, mais aussi la manière dont les gens ont vécu en étant au cœur de la ville, ont pu avoir un niveau de photo qui était assez exceptionnel, sans avoir des accréditations ou des choses comme ça, parce que plein de choses étaient accessibles, ce qui normalement n'est pas possible pour les Jeux Olympiques. Et là, c'est vrai que c'est la première fois que les gens ont pu faire des photos aussi proches des événements ou des lieux olympiques sans avoir de billets ou d'accréditation.
Et justement, cette exposition, elle va permettre à chacun de figer, de prendre le temps, de vivre les choses, justement, de revivre peut-être aussi.
Exactement, c'est vraiment l'idée de se dire qu'ici, vous allez pouvoir vous reconnecter avec ces émotions, ce moment un peu collectif que vous avez pu vivre là. Et avec le nombre de photos qu'il y a, avec le nombre d'objets, chacun peut-être sera sensible à quelque chose et moins à autre chose. Mais chacun va y retrouver un moment. Et puis à un moment, il y a une photo qui va activer ce souvenir. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et en tout cas, on invite tout le monde à venir avec les grands et les petits, parce que c'est quelque chose qui a été partagé en famille ou avec des amis. Et du coup, ça peut être bien de revivre ce moment avec ces mêmes familles ou ces mêmes amis pour revivre ces moments-là ensemble.
Merci beaucoup, Benoît Baume.
Voilà, merci à Benoît Baume. Donc, c'est une expo où il n'y a pas eu que des professionnels qui ont fait des photos.
En effet, c'est à la fois des photos de photographes professionnels et de photographes amateurs. D'ailleurs, quand nous y sommes allés, il y avait Shana Bidbol qui est l'une des lauréates donc, de ce concours. Et donc, avec cette exposition hein, pour finalité. Vous avez aussi des robes de Céline Dion lors de la cérémonie d'ouverture et celle d'Axel Saint-Cyrel. Et des objets comme les médailles olympiques, comme les torches de Mathieu Lehaneur. Donc c'est vraiment pour se replonger hein, dans ces Jeux olympiques et prendre vraiment le temps de se reconnecter. Et chacun, après, vit les choses à sa manière.
Alors on va rappeler que c'est à la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville de Paris hein, et que donc c'est ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h30, sauf le jeudi où c'est de 13h à 20h. Et c'est fermé donc le dimanche et les jours fériés. Et il faut rappeler que c'est une exposition qui est gratuite.
Qui est gratuite, voilà. Exactement, voilà, tout à fait.
Vous connaissez hein, tout le bon monde, Jean-Denis.
Pardon.
Vous connaissez tout le bon monde.
Oui, je connais évidemment l'organisateur Benoît Baume. Je connais aussi.
Oui.
Pierre Rabadan, Gros Sport.
Mais c'est bien de perpétuer ça.
Bien sûr. Mmh. Et puis le fait de mêler les travaux amateurs professionnels, c'est une bonne idée. Là, d'ailleurs, il y a des photographes de la galerie qui sont dans l'expo. J'ai vu dans le catalogue la Pauline Ballet et Bilal Aoufen. Alors, c'est une très bonne initiative, je trouve.
Oui.
Aujourd'hui, avec la technologie, même quelqu'un d'assez. Qui ne serait pas du tout un photographe professionnel peut faire une bonne photo.
Oui.
On est personne à l'abri d'un miracle. Ouais.
Alors c'est bien parce que...
C'est bien, mais ce qu'il faut aussi savoir, et pour remettre les choses à leur place, c'est que tout le monde peut avoir un coup de chance et faire miraculeusement la lumière, ça a une super image. Mais les grands photographes provoqueront le miracle beaucoup plus souvent que les autres. Voilà en fait en gros la différence.
Alors justement, c'est bien parce que ça me sert de transition. Est-ce qu'il faut aimer le sport pour être un grand photographe de sport? Ça dépend des sports.
Ça semble difficile de ne pas aimer... Je dirais,
on en parlait
quel que soit
tout
le
à
sujet,
pour
qu'un photographe travaille de manière intéressante, il faut quand même qu'il ait...
qu'il connaisse le sport.
Ouais. Moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est que même si peut-être au début, il n'est pas fan de sport, il y a la beauté du geste, il y a l'émotion, il y a tout ça.
Oui, mais ça, si on fait le sport, on peut le ressentir plus facilement que si on n'aime pas le sport.
Ça, c'est sûr. Mais la beauté du geste aussi, et ça, c'est...
Mais aussi les émotions générées, tout ça. Mais oui, je pense qu'en fait, ça, c'est quand même... la base.
Mais c'est vrai qu'il faut aimer le sport, ça fait
vivre
les choses.
Connaître, pour être un bon photographe, il faut le connaître, le sport qu'on photographie, on perd moins de temps, l'anticipation et comment les choses se passent, et quand il se passe ça, je dis une espèce de routine presque, et par rapport à... Je représente par rapport à une photographe qui s'appelle Corinne Dubreuil, qui est spécialisée en tennis.
Oui.
Quand elle va arriver à Roland-Garros ou à la Rod Laver Arena en Australie ou à Flushing, elle sait à 15h, 16h, si je me mets là, la lumière, elle sera meilleure si je fais ci, si je fais ça. Il y a le métier aussi.
Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est la même chose dans plein d'autres sports. On sait qu'à ce moment-là, il va faire ça, qu'il va y avoir ça. Voilà.
Comment, quand il y a le frémissement pour les balles d'importance, oui, voilà, comment se placer. Il y a le métier, en fait, je dirais que c'est un peu vrai dans toutes les professions, c'est irremplaçable.
Est-ce que le noir et blanc, ça rend la photo encore plus belle? Parce qu'il y en a qui préfèrent paradoxalement le noir et blanc.
Toujours travailler en noir et blanc. Parce qu'ils estiment, il y a beaucoup de photographes qui estiment qu'en fait, c'est moins pollué, les couleurs. Là, on est directement sur l'image, qu'il y a moins de choses qui attirent l'œil. Je dirais, le noir et blanc, moi j'en ai évidemment beaucoup à la galerie, mais d'une part aussi parce que toutes les photographies d'avant, je parle des années 30, 40, 50, 60, 70 même, où la presse était quasiment exclusivement en noir et blanc, se faisait en noir et blanc. Aujourd'hui, j'ai aussi des travaux plus récents qui ont été faits en noir et blanc parce que le photographe, c'est un parti pris et qu'il estime que...
D'accord. Alors, on va voir le point foot. Vanessa, du coup, en attendant, va nous faire le journal des sports. Hein, je l'ai dit, donc, le temps qu'on prépare pour le point foot, eh ben, Vanessa va nous faire le journal des sports. Voilà. Alors, on y va.
Donc, on va filer tout de suite au BHV, Philippe. Donc, les résultats de basket de la semaine. Ah. Le Paris Basketball a remporté son match du week-end 98-89 face à Bourg-en-Bresse. Nanterre, lui, part face à Monaco 81-73. Les Nanterrois sont 10e, tandis que les Parisiens son troisième du classement. Il y avait également l'Euroleague. Malheureusement, nouvelle défaite pour les Parisiens contre l'Étoile Rouge de Belgrade, 85-69. Lyon-Villeurbanne, eux, ont gagné 82-76 contre l'Anadolu Efes, qui rencontrera d'ailleurs demain Paris. Et Monaco a perdu contre Barcelone, 98-84. Donc, au classement de l'Euroleague, les Monégas sont 3e et les Parisiens 6e, les Lyonnais 14e. En handball, pas de championnat ce week-end car c'était les qualifications pour les championnats d'Europe, des matchs de préparation pour les championnats du monde. Mais mercredi, il y avait la 9e journée de championnat pour les femmes. Le Paris 92 a perdu 31-28 contre Mérignac et au classement, les Parisiennes sont 6e. En volleyball maintenant, 16e journée de la Marmara Spike League, le Plessis-Robinson a remporté son match contre Saint-Nazaire, 3-1, et Paris a gagné 3-2 contre Tourcoing. Les Parisiens sont 8e du classement et le Plessis-Robinson est 13e chez les femmes. Levallois-Paris a gagné 3-2 contre le Canet. Elles sont 4e au classement. On va peut-être aussi un peu parler.
Oui, et ensuite on enchaînera avec Stéphane, à moins qu'on prenne Stéphane.
Stéphane et je finirai tout à l'heure avec grand plaisir.
C'est bien. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Vous pouvez continuer si vous voulez.
On va innover un peu, on va passer le point foot en milieu du journal des sports, c'est bien. Bon Stéphane, juste un petit mot, Didier Deschamps qui s'arrête après 2026. Bon, c'était logique, prévisible.
Vous savez, après ça m'a fait penser ce rap-dame un peu médiatique, là, ça m'a fait penser un petit peu à Kylian Mbappé, quand il a annoncé officiellement le 1er juillet et tout le monde a dit Kylian Mbappé au Real Madrid, alors que c'était qu'il l'avait même dit lui-même depuis 15 jours, c'est pareil, depuis un mois avant. C'est pareil, hein, Deschamps, c'était déjà. Il a annoncé tout ce qui était déjà dit, quoi, qu'il allait jusqu'à la Coupe du Monde 2026, quoi, voilà, quoi. Maintenant, il a dit que. Que même s'il gagne la Coupe du Monde quelque part, ça ne durera pas, mais sinon, il n'y a rien pour moi, il n'y a rien de mieux.
Très bien. Allez, cette semaine, c'était essentiellement le championnat. Donc, ça y est, on a fini les matchs aller. C'en est terminé, on le disait. Donc, Paris Saint-Germain a décroché le titre symbolique de champion d'automne. Je vais simplement vous rappeler les résultats, puisque Monaco est allé faire nul à Nantes 2-2. Lille a aussi perdu des points en faisant nul à Auxerre 0-0. Lyon battu à Brest 2-1. Nice qui continue sa série d'invincibilité en gagnant 4-2 donc à Reims. Marseille aussi qui continue sa bonne série de matchs victorieux à l'extérieur en gagnant à Rennes 2-1. Victoire de Lens au Havre 2-1. Il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur, 5 victoires dans cette journée de championnat. Strasbourg qui aussi l'emporte à Toulouse 2-1. Victoire de Angers à Montpellier 3-1. Et hier donc le Paris Saint-Germain qui assure l'essentiel en battant Saint-Étienne 2-1. Donc Paris Saint-Germain 43, Marseille 2e 36, 3e Monaco 31. Donc le trou est fait quand même. 4e Nice 30, 5e Lille 29 et 6e deuxième, Lyon 28. Donc pour la troisième place, ça s'est resserré. Et puis en bas du classement, eh bien Angers est 13e avec 19 points. 14e Rennes, 17 points. 15e Nantes-Saint-Etienne, 16 points. 17e Le Havre, assez décramponné, 12 points. Et 18e donc Montpellier, 9 points, Stéphane.
Ouais, tout à fait. Moi, ce qu'on peut noter de ce week-end, c'est que pour ma part, déjà c'était déjà un peu le cas avec la défaite à Louis II, mais c'est Monaco qui a définitivement abandonné déjà le titre, même si on peut penser que ça va être très dur aussi même pour Marseille. Mais disons qu'aujourd'hui, le seul petit, la petite pointe de suspense qui reste, c'est effectivement Marseille, s'il y a comme c'était le cas ce week-end, si un jour Marseille joue avant et gagne, ils reviendront à 4 points. Donc, on dira toujours un petit par terre. Et cela, voilà, ça sera comme ça jusqu'au match retour au Parc des Princes. Quoi. Et, c'est un peu étrange, le sentiment, parce que moi, je suis quand même très, très déçu par Monaco, très déçu même par Lille,
oui.
Ils suivent pas la cadence, quoi. Parce que bon, c'est vrai que Marseille est assez impressionnant. Ils ont trouvé leur équipe, ils sont très forts à l'extérieur et tout. Mais bon, je trouve que Monaco qui perd des points à Nantes et Lille qui en perd à Auxerre, vous me direz, bon, à Paris, on a perdu aussi à Auxerre. Mais bon, il n'y a pas que contre Auxerre. Hein. Ils ont perdu contre chez eux, contre Angers. Ils ont, en dehors de leur match de Coupe de France contre des amateurs, ils ont gagné un seul de leurs 6 derniers matchs. Hein. Je crois que c'est un match de championnat contre Reims, d'ailleurs, je crois. Mais sinon, c'est inquiétant. Et on en a, rappelez-vous, Philippe, on en avait parlé ensemble. Hein. Je vous disais que Monaco était très très loin d'être qualifié en Ligue des Champions.
Hein. Oui,
il leur faut un point, mais c'est pas sûr qu'ils arrivent à le prendre. Hein.
Et oui, ça s'est resserré. Hein. Donc pour la suite, et on verra donc dans les deux prochaines semaines pour la Ligue des Champions. Allez, la Ligue 2, où là on a entamé la deuxième partie de championnat. Donc on va quand même rappeler très brièvement les résultats. Lorient Metz 0-0. Le PFC qui s'impose aussi dans la douleur face à Amiens 1-0. Nul entre Pau et Dunkerque 1-1. Nul pour le Red Star à Laval 1-1, Bastia qui s'impose largement dans le derby corse 4-0 face à Ajaccio, et Caen qui s'enfonce un peu plus, battu par Grenoble 1-0. Donc pour l'instant, le Paris FC partage la première place avec Lorient, mais Lorient a un goal average supérieur, plus 13 contre plus 11, donc 34 points pour les deux équipes. Dunkerque 3e 33, 4e Metz 31, 5e Annecy 30 et 6e Laval Guingamp 29, donc on voit que c'est très très serré également donc en tête du championnat de la Ligue 2. Et pour les places pour le maintien, le Restart est 14e avec 22 points, 15e 3, 21 points, 16e Caen, Ajaccio 15 points et 18e Martigues 12 points. À noter, Stéphane, que la semaine prochaine, il y aura deux matchs importants, Metz contre le Paris FC et Dunkerque face à Lorient.
On peut enregistrer le message et le repasser tous les lundis. Hein. C'est un championnat qui est extrêmement difficile, qui est extrêmement indécis et on sait, il faudra attendre jusqu'au bout. Il y aura des bagarres, avec certainement dans le top 5 des clubs qui n'y sont pas. Il y a toujours un club qui vient dans le top 5, voire sur le podium, alors qu'il n'est pas trop dans le top 5 en tout cas, alors qu'il n'est pas trop dans le coup au cours de la saison. Donc c'est très compliqué. Maintenant, c'est des équipes. C'est vrai qu'on peut dénigrer la Ligue 1, mais la Ligue 2, en tout cas, il y a certaines équipes qui se rapprochent un peu des équipes de Ligue 1, donc notamment je pense Lorient bien sûr, par exemple Paris FC, Metz, c'est quand même des équipes des très belles équipes sur le papier, donc et puis il y a les troubles faits derrière. Bon, je pense pas que Dunkerque va durer, je pense pas. Maintenant on va voir comment, peut-être un retour de Bastia par exemple, ça c'est éventuellement possible.
Très bien. Allez, en national, 16e journée. Tiens, ça fera plaisir à Jean-Denis, notre invité, hein, puisque le Paris 13 Atlético a fait nul à Valenciennes 1-1. Versailles s'enfonce un peu plus, battu par Quevilly-Rouen à domicile 1-0. Victoire sinon de Nancy, le leader, toujours à Nîmes 2-1, et Orléans qui bat au Bagne 2-1. Donc, Nancy Nancy en tête avec 30 points. Boulogne, Surmer et Orléans se partagent la deuxième place avec donc 28 points. Et puis derrière, on a donc Nîmes, le Paris Atlético et Versailles qui ont tous les trois 15 points, mais un goal average très largement défavorable pour Versailles qui serait actuellement donc qui descendrait et puis le 16e c'est Villefranche en Beaujolais avec 14 points et 17e Châteauroux 9 points. Donc Versailles, c'est comme le Paris Atlético, ça devient critique, Stéphane, hein. Il descendrait pour l'instant.
Ah ouais, il descendrait, alors faut voir ce qui va se passer au niveau de la DLCG, de tout ça, parce que ça modifie toujours un peu les classements à la fin, quoi. Faire des calculs et tout ça avant, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant quand même, parce que Versailles, c'est un peu le yo-yo quand même, hein. Il monte dans le classement, il redescend, il change d'entraîneur, il remonte, il redescend. Alors, le problème, c'est l'instabilité. Je crois qu'en sur les deux ou trois dernières saisons, ils doivent en être déjà au moins trois ou quatre entraîneurs, quoi. Donc, celui qui était derrière, celui qui est monté, je ne me rappelle plus de son nom, qui a fait monter le club en national, il y a eu Jean-Luc Vasseur, il n'y a pas eu Chris, non, qui est passé par...
Il a été au début.
Ouais, au début. Il y a... Il y a du monde, quoi. Donc, c'est bizarre. C'est vraiment très, très étrange. C'est aussi quand même un championnat très, très compliqué. Hein. Là, on est, je ne sais pas, jouer ces matchs à la fin des matchs aller aussi.
Non, il reste une journée, mais le problème, c'est qu'il y a des équipes qui sont exempts donc sur une journée, puisque le FC Gaulle a fait donc forfait, et Versailles, justement, sera exempt lors de la prochaine journée. Ils n'ont pas encore... Donc, ils vont perdre des points encore. Hein. Voilà.
Non, en fait, c'est pour rectifier, oui. C'est surtout Bordeaux qui a le fait qu'il soit à 17, là, c'est parce que c'est Bordeaux qui n'a pas été repêché.
Oui, qui n'a pas été repêché pour le FC Gaulle.
Effectivement, le FC Gaulle a été relégué sportivement. Oui. C'est d'ailleurs la grande bataille de notre ami Noël Tosi qui a depuis été évincé au FC Gaulle, qui estimait qu'il devait survivre à la place de Bordeaux, quoi.
Allez, les féminines, donc c'était la 12e journée. Là aussi, on a attaqué la phase des matchs retour. Il n'y a pas de changement. Ce sont toujours les mêmes. Lyon qui bat Dijon 2-0. Nul entre eux, donc Fleury-Mérogis et le Paris Saint-Germain 0-0, et le PFC qui va gagner au Havre 2-0. Donc Lyon en tête 34 points, devant le PSG 2e 29, 3e le Paris FC 27 et 4e Dijon 20.
Voilà, tout à fait. Bah, chez les féminines, le coup de tonnerre, la bombe, c'est quand même l'élimination de Lyon en Coupe de France. Hein.
Oui.
Lyon qui a perdu en Coupe de France 10 tirs au but à 9, je crois, face à Reims. Mm-hmm. Donc ça ouvre déjà en énorme la compétition pour les clubs comme le Paris FC, le Paris Saint-Germain, qui est un favori, mais bon, le Paris FC peut très bien aussi le faire, ou Fleury, ou même pourquoi pas Dijon, hein, qui est étonnant en étant dans le top 4, quoi. Mais ça a quand même été un énorme, surtout sans marquer de but en plus. Ils n'ont pas réussi à marquer de but, ce qui est quand même un peu exceptionnel, quoi, quand même. Donc c'est fou maintenant, mon championnat. C'est là qu'on se dit que je sais pas à vous, mais moi je m'interroge un peu sur ces fameux play-offs, les choses comme ça, quoi, parce que ça dénature un peu l'intérêt, je trouve, quand même, quoi, de Paris Saint-Germain-Lyon, par exemple, pour ces deux clubs-là. Je sais pas où vraiment l'intérêt.
C'est pour essayer de donner un petit peu de semblant de suspense. Merci Stéphane, en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine. Il y a la Coupe de France cette semaine. Hein.
Ouais, il y a la Coupe de France cette semaine.
Et les Coupes d'Europe la semaine suivante, hein, comme on l'a dit.
J'invite il sera en ligne demain matin. Oui. Les lecteurs, allez voir une très bonne interview du président du FC, Spalli, qui reçoit le Paris Saint-Germain mercredi soir. Et pour lui, c'est toute l'Auvergne qui doit fêter, rendre hommage et fêter le lui, il voit ça bien au-delà, bien sûr, qu'un match de foot, parce qu'il sait très bien qu'il n'a aucune chance. Et c'est très, très intéressant, quoi. Ce sera sur le site demain.
Eh ben, on le lira. Merci Stéphane. Belle soirée.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
À très bientôt. Et puis Vanessa, elle nous reprend donc journal des sports, le foot après donc les rubriques BHV. Maintenant, on va parler des sports individuels.
Et j'ai plein de bonnes nouvelles. Oui. Alors, on avait oublié le rugby parce que très bonne nouvelle pour le Stade français qui, dans la Coupe des Champions, a remporté son match 45-35 face au club anglais de Northampton. Tandis que le Racing 92, lui, s'est incliné 19-29 face au club écossais des Glasgow Warriors. Donc c'est une bonne nouvelle pour le Stade français qui avait subi beaucoup de défaites. En tennis, victoire de Gaël Monfils en Australie au tournoi d'ATP d'Auckland. Il devient le joueur titré avec la plus grande longévité de carrière à 38 ans et 4 mois. Il dépasse même Roger Federer, c'est pour dire. J'ai plein d'autres bonnes nouvelles, Philippe. En ski alpin, Clément Noël s'est imposé dans l'épreuve de slalom de la Coupe du monde de ski alpin. La France, tout de même, il faut préciser, une grande nation de sport de neige. Alors, tandis qu'en Coupe du monde de biathlon, eh bien, c'est un podium 100% français avec Quentin Fillon-Maillé qui a devancé Émilien Claude. Et puis Émilien Jacquemin, excusez-moi. On va aussi noter la très belle victoire de Paula Beauté qui a remporté l'épreuve du sprint 7,5 km femme. Elle est la 13e française de l'histoire à s'imposer dans cette épreuve. Et puis si je vous dis Véronique Claudel, Philippe, ça doit vous parler. Grande championne olympique par équipe aux Jeux de 92, qui est sa maman en fait. Voilà. Et puis on va finir avec le Dakar et le Vendée Globe. Donc en Dakar aujourd'hui, le classement à la 8e étape, 9e étape, c'est Sanders en moto devant Shairena et Van Beveren. Tandis qu'en excusez-moi, ça c'était la moto, qu'en auto, c'est Latigan Cummings devant Al Raji Gottschalk et troisième Ekström Bergqvist. Ça c'était pour le Dakar. Et puis en Vendée Globe,
oui, c'est bientôt l'arrivée. Hein.
Voilà, arrivée prévue demain matin. C'est pour l'instant Charlie Dalin qui est en tête devant deux autres Français. Donc Johan Richaume hein, qui a connu une avarie vendredi, mais qui est revenu dans la course. Il a pu continuer. Et Sébastien Simon. Voilà pour le journal des sports.
Merci Vanessa pour ce journal des sports. Vous voyez, ça va vite, hein, c'est ça. Quelle est la photo la plus chère?
Dans la galerie. La photo la plus chère, est-ce je pense que je représente un photographe qui s'appelle Gérard Rancinan, oui. Qui est un artiste contemporain assez célèbre, hein, qui est vendu dans le monde entier, qui est totalement sorti du monde du sport. À une époque, il faisait beaucoup de portraits de champions. Et moi, je le connais depuis toujours et je l'en faisais faire pour l'équipe magazine, etc. Et lui, sa cote est assez forte. Donc, les grands formats, ça va chercher dans les 40 000 euros.
Ah, 40 000 euros. Ah ouais, ouais. Donc,
voilà. C'est bien. C'est pas donné.
Alors, le métier, il a beaucoup changé par rapport à votre époque. Aujourd'hui, il faut passer par les écoles, indispensable. Il y a du matériel qui permet quand même aujourd'hui de beaucoup mieux travailler, comme
c'est
pour nous, simple. Les journalistes. Hein, pour
c'est
tout,
plus hein. simple, ouais. pour, évidemment. Ouais. La mise au point automatique, l'autofocus, ça a révolutionné le truc. Malgré tout, un grand photographe fera plus souvent des grandes photos qu'un photographe ordinaire. C'est comme si ça nivelle pas. En fait, malgré tout, là, il va mieux utiliser le truc. Et puis surtout, il y a l'œil, le talent, la manière de se placer, l'anticipation.
Oui. Et puis, la photo, c'est pour faire ressentir un sentiment, une émotion avant tout. C'est pas forcément lié au résultat et
non,
à la performance.
Bah, la galerie, par exemple, moi, il y a beaucoup de choses où on n'est pas dans l'action. On est dans l'émotion, on est dans la relation humaine, on est même dans le social. Je représente Jerry Cranham, un photographe anglais qui est décédé en septembre 2023, à 93 ans. Il a beaucoup travaillé pendant les années 60, 70, 80. Son travail, non seulement c'est du foot anglais, ça raconte vraiment le foot, mais ça raconte aussi l'Angleterre. Les pubs, la ville, la working class. Le sujet, il est extrêmement riche. En fait, c'est pas du tout un sujet contraignant ou c'est un sujet extrêmement riche. On peut tout raconter avec la photographie de sport.
Mais
tout entier.
Mais on laisse des photos en cours de route, quoi. Voilà. Hein, c'est ça.
Exactement.
Hein. On est aidé parfois par les circonstances.
Quand on est photographe,
fatalement.
Bien sûr,
fatalement. On joue avec.
On cherche. Il y a des ils cherchent la bonne photo. Et puis tout d'un coup, il y a un coup de chance qui va faire qu'elle va s'offrir.
Ouais. Ça fait partie. Merci en tout cas, Jean-Denis. Ça a été un plaisir.
Merci beaucoup, Jean-Denis. C'est un grand plaisir.
C'est promis. On viendra vous voir à votre galerie. Hein, vous avez vu des émissions bien denses, bien riches que vous pourrez retrouver donc naturellement en podcast. Merci donc aussi à Jason d'avoir été donc aux manettes ce soir. Et puis on laisse maintenant le témoin à nos amis de Au bout du foot. Belle soirée à toutes et à tous. Et on termine comme la tradition le veut en musique. Belle soirée à toutes et à tous. À la semaine prochaine.
Très bonne soirée.
je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si y avait rien à dire, j'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Je vis d'amour et de risque quand ça va pas.